Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Il n'y a pas d'eau potable depuis trois jours dans plusieurs quartiers de Goma, en cause notamment une panne technique dans le réseau de distribution locale. À Bukavu non plus, il n'y a pas d'eau de la régie des eaux depuis plusieurs semaines maintenant. Du coup, à Goma comme à Bukavu, des milliers de personnes vont s'approvisionner au lac Kivu avec risque des maladies d'origine hydrique. En Ituri, cette alerte des armées congolaises et ougandaises engagées dans la traque des EDF dans l'est de la RDC. Un risque d'attentat et acte de sabotage pourrait être commis par ces rebelles contre la population. Ceci est contenu dans un communiqué de presse conjoint daté du 10 janvier. Et puis, l'invité de ce midi, Honoré Kapuku Mushila, de l'ONG La Voix des Sans Voix VSV, y conduit une délégation de la VSV à Mbandaka avec pour mission sensibiliser et mobiliser les acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Madame, Messieurs, bonjour. Au moins 8 quartiers périphériques sur les 18 que compte la ville de Goma sont privés d'eau potable depuis 3 jours. Situation consécutive à une panne technique dans le réseau de distribution locale avec l'éclatement de la conduite mère de refoulement au niveau du cercle sportif en plein centre-ville. Du coup, des milliers de personnes, hommes, femmes et jeunes, parcourent des longues distances pour s'approvisionner en eau au lac Kivu. Reportage signé Gabriel Wamenia.
Les quartiers les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont par exemple les quartiers les plus chauds comme Majengo, Bouéné ou Katoï. 5 autres quartiers comme Virunga, Imbi, Bujovu, Kasika et Kaembe ne sont pas épargnés par cette rareté d'eau. Ce mardi matin, on pouvait apercevoir sur les principales rues de la ville plusieurs centaines d'hommes, femmes et jeunes, tous des bidons jaunes en bandoulière, se déversaient sur les lacs à la recherche de l'eau. Suivez les témoignages de cet enfant d'environ 8 ans que nous avons rencontré au niveau de la 34e région militaire.
Chez nous, nous souffrons à cause de l'eau. Sinon, les gens vont mourir dans les maisons. Moi, descendre au lac pour trouver l'eau. Je viens de Majengo vers Marché.
Les spécialistes de santé redoutent déjà l'apparition des maladies d'origine hydrique, mais le directeur provincial de la régie des eaux rassure David Angoya.
Je crois que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Je crois que ça, s'il n'y a pas d'empêchement en augmentation de l'énergie électrique, nous allons rétablir la distribution, la desserte vers cette zone. Donc, c'est la technique, voilà. Donc, je ne sais pas vous dire, c'est à 10h05.
Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Au sud qui vous voisin également, la population de Bukavu s'est plainte du manque persistant d'eau potable de la régie des eaux. Et ici, la situation dure depuis plusieurs semaines. Des quartiers entiers restent sans eau, ce qui oblige la population à se diriger vers les bornes fontaines de routine ou encore vers le lac Kivu pour s'approvisionner. La direction de la régie des eaux appelle la population au calme et à la patience, disant que les techniciens sont à l'œuvre pour remédier à cette situation. Un reportage de Rachel Kiesé.
Nous sommes au quartier Ngouba, un des quartiers les plus touchés par ce manque d'eau. Les habitants font des kilomètres jusqu'au lac pour se procurer d'eau. Cette eau qui n'est pas potable.
Les gens passent des semaines sans avoir de l'eau ici à Ngouba. Mais si la Régie des eaux pouvait faire aussi son travail pour qu'on puisse avoir de l'eau.
Souvent, moi, quand je quitte le boulot, j'arrive à la maison, il n'y a pas d'eau. Je suis obligé de payer les transports pour aller chercher de l'eau.
Envoyez-nous de l'eau. Vraiment, ça doit être favorable à toute la population de Ngouba. Merci.
La Régie des eaux s'est dit être à l'œuvre pour résoudre au plus vite ce problème. Certes, jusque-là, la solution est loin d'être trouvée. Le directeur provincial de la Régie des eaux Sud Kivu, Tumba Kayembe.
Nous faisons tout. Nous remettons les histoires et puis ça ne répond pas. Nous avons acheté des histoires à Goma. On a ramené, ça n'a pas répondu. Quand il n'y a pas l'eau, ça me fait très mal.
Il y a des équipes techniques qui sont à pied d'œuvre. On doit résoudre cette difficulté-là, ici-là.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, la circulation des taxis et taxibus a repris avec fluidité ce mardi matin. C'est la conséquence du sursis momentané par le maire de la ville à sa mesure controversée visant à peindre tous les véhicules qui font le transport en commun à la couleur jaune du drapeau congolais. Entre-temps, l'autorité municipale convoque une réunion avec toutes les parties prenantes le jeudi prochain. Il faut rappeler que les taxis et taxibus ont séché la circulation toute la journée d'hier à Goma. Leurs propriétaires demandent aux autorités de trouver un consensus avec tous les usagers. Direction la province du Maniema. Déclarée en décembre dernier par l'autorité provinciale, on continue à enregistrer des nouveaux cas de l'épidémie de monkeypox. Selon le ministre sectoriel, à ce jour, dans la zone de santé de Tunda, 251 cas sont recensés, dont 24 décès. Cette montée en flèche des cas est justifiée par le non-respect par la population des consignes, déplore le docteur Kibungi Mutanga Junior, ministre provincial de la Santé. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Comme avait déclaré son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que cette zone santé était proie à l'épidémie des monkeypox, qui mille des cas aujourd'hui, nous avons 251 cas et 24 décès. Oui, lors de la déclaration, on était à 191 cas et 24 décès, et aujourd'hui, on est à 251, c'est-à-dire quelques cas se sont augmentés. Comme c'est une maladie contagieuse, il y a une frange de la communauté qui n'a pas pu respecter les mesures de prévention qui ont été édictées. Et cela a fait que les cas ont augmenté. Mais pour la semaine dernière, selon les rapports en notre possession, il y a zéro cas comme nouveau cas. Oui, nous avons été assistés par l'OMS parce que l'OMS avait envoyé un technicien à la zone de santé sur le plan technique. Et monsieur a accompagné la zone de santé par rapport à l'installation des comités d'élite et autres. Nous ne pouvons que demander à la population de respecter les mesures de prévention telles que recommandées. En dehors des monkeypox, il y a aussi les cas de rougeole qui ravagent cette zone de santé.
Santé toujours, recrudescence des cas de COVID-19 au Kasaï oriental. Depuis la dernière semaine de décembre 2021, la province a enregistré 620 cas de COVID, dont 29 décès. Le chef de la division provinciale de la santé lie cette situation au nouveau variant Omicron et au relâchement des gestes barrières par la population. Docteur Bonheur Chitekou pense à une nouvelle approche à appliquer au niveau de 19 zones de santé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Docteur Bonheur Chitekou, chef de division provinciale de la santé au Kasaï oriental, explique au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons connu notre vertigineuse des cas de COVID-19 et au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré près de 620 cas de COVID-19, dont 29 décès. Et dans la majorité des cas, ce sont des cas symptomatiques qui sont plus dépistés au niveau des tests voyageurs et également au niveau de notre site éco pour ceux-là qui viennent volontairement. En dehors de certains cas aussi qui présentent des manifestations cliniques qui viennent au niveau des structures sanitaires pour la prise en charge. Donc, on se dit qu'il y a déjà les nouveaux variants d'Omicron qui existent déjà chez nous avec tout ce qu'il y a comme déplacement de la population et il y a une forte contagiosité, ce qui fait que nous enregistrons beaucoup de cas de COVID-19. Certes, il y a des relâchements dans la population et les mesures barrières ne sont pas respectées. Et nous avons pris des mesures afin que l'approche puisse être appropriée au niveau des zones de santé.
Province de la Tchopo, les personnes vivant avec handicap apprennent comment défendre et promouvoir leurs droits en utilisant les médias. Une formation y afférente est organisée depuis hier à l'hôtel New Palm Beach par l'ONG Family Kadiwaku Foundation en partenariat avec une ONG américaine. Cette formation de 5 jours concerne notamment les personnes vivant avec handicap, les responsables des ONG, des activistes des droits de l'homme et les autorités locales. Didier Ntonta, représentant de la Fondation Kadiwaku en RDC, explique le bien fondé de cette formation au micro de Jacques Moukonkolé.
Kadiwaku a cherché un partenaire pour la formation de comment utiliser les médias pour faire la promotion et la défense des droits humains. Depuis le mois de novembre, on a mené des enquêtes à la ville de Kisangani et ses extrémités. Nous avons compris que beaucoup plus la souffrance qui règne encore au milieu de la communauté des personnes handicapées, c'est aux extrémités, là où ils n'ont pas même accès et ils n'ont pas même l'idée de pouvoir divulguer ce qu'ils ont comme difficulté. Même si les responsables des organisations, les activistes des droits humains parlent des droits des personnes en situation de handicap, nous avons jugé bon qu'eux-mêmes aussi sachent comment est-ce que je dois dire ce qui est de mes droits et comment est-ce que je dois bénéficier de ce qu'on appelle la charité ou autre. Alors, nous avons jugé bon d'avoir ces métiers-là dans leur tête pour pouvoir utiliser partout où ils seront. Ils peuvent au moins naviguer, faire ceci, cela, enregistrer et de disposer dans toutes les chaînes officielles des espaces où les personnes handicapées et autres groupes vulnérables peuvent s'exprimer.
Et puis cette plainte du CIECO Lukolela dans l'Équateur, plainte contre la Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. Le CIECO Lukolela réclame le paiement de 15 mois d'arriéré des frais de fonctionnement destinés aux écoles publiques et aux bureaux gestionnaires de Lukolela, frais qui datent de 2017 et 2018, mais aussi la somme de 300 millions de francs congolais incendiés pendant le transfert des fonds destinés à la paix du mois d'octobre 2020 pour les territoires de Lukolela et de Yumbi dans le Maïndombe. Cependant, la procédure judiciaire au parquet de Mbandaka accuse une lenteur, ce qui a poussé les enseignants à boycotter le travail au retour des vacances de Noël, a dit le secrétaire permanent du CIECO Lukolela. Trésor Epanga a ainsi lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Il est au micro de Paul Richard Malengela.
Ici à Mbandaka, nous avons déposé notre plainte au niveau du parquet de grande instance de Mbandaka. La situation évoluait très bien, sauf que ça nous prend du temps. Nous voulons toujours interpeller les autorités de la justice, pourquoi pas la Caritas. Surtout la Caritas, que ce que nous sommes venus faire, c'est pour l'intérêt des enseignants et qui sont des chrétiens catholiques, et ainsi de suite. Et même les autorités catholiques au niveau national, surtout le numéro 1 de l'Église catholique, de pouvoir s'imprégner, s'intéresser de la situation. Pourquoi pas aussi les ministres nationaux de l'EPST pour que les enseignants de Lukolela trouvent leur solution aux revendications. Les difficultés sont énormes parce que vous savez, il y a eu des grèves, on est tenté de préjudicier nos enfants pour rien. Et on avait opté comme solution de saisir les tribunaux et que les enfants que nous ne voulons pas leur donner cours, ils sont innocents. Donc nous sommes venus à la justice parce que nous savons que la justice, c'est la force de l'État. Je crois à la justice de notre province et qu'il nous donne la solution.
Je vous le disais en titre, les armées congolaises et ougandaises engagées dans la traque contre les ADF dans l'est de la RDC alertent le public sur un risque d'attentat et acte de sabotage qui pourrait être commis par ces rebelles contre la population. Dans un communiqué de presse conjoint daté de 10 janvier, ces deux forces affirment qu'elles disposent des informations sur la planification des massacres des civils par les ADF déguisés en soldats de l'armée ougandaise avec comme objectif de déstabiliser la région. Le condensé de se communiquer avec Martial Kizabiamungu.
Selon ce communiqué de presse, deux éléments appartenant à un groupe armé projetteraient des actions pour discréditer les performances réalisées par les armées ougandaises et congolaises engagées dans la traque contre les rebelles de ZADF à l'est de la RDC. Selon ces deux forces, ces criminels voudraient semer les doutes dans l'esprit des populations et monter celles-ci contre ces deux armées pour mieux nuire aux bonnes relations qui existent entre ces forces et la population locale. Toujours selon ces communiqués, ces criminels projetteraient d'utiliser des uniformes similaires à ceux de l'armée ougandaise pour organiser des attentats à la bombe, l'objectif étant de monter la population contre l'armée ougandaise que celle-ci et les FRDC sont pourtant censés protéger. Les deux forces rassurent cependant les publics qu'elles ne se laisseront ni distraire ni détourner de leur mission, ce qui est de neutraliser définitivement l'ennemi ADF. Le tout dans le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement conclues le communiqué. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, 7 présumés assaillants de la Codeco capturés par l'armée ont été présentés hier au gouverneur de province à Bounia. Parmi ces rebelles figure l'un des fondateurs et féticheurs de ce groupe armé. Des habitants du territoire de Djougou saluent la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO dans la traque de ces miliciens. Le porte-parole des FARDC en Ituri exhorte la population à renforcer la collaboration avec les forces de sécurité pour venir à bout de ce mouvement armé. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Première audience hier au tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo dans l'affaire qui oppose la ferme Espoir de l'ancien président Joseph Kabila à Timothée Mbuya, responsable de l'ONG Justicia Asbel. Ce dernier est poursuivi pour imputation dommageable pour avoir affirmé dans un communiqué de presse publié le 30 septembre 2021 que la ferme Espoir a spolié de manière manifeste le parc national de Kundelungu en érigeant une clôture au-delà de ses limites. Cela en privant ce parc de la faune et de la flore sur une grande étendue. Explication de Jean Gandou.
Cette première audience a duré une trentaine de minutes. Et pour cause, les avocats de Timothée Mbuya ont démontré que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi parce que l'exploit d'assignation de leur client a été déposé non pas à son domicile comme l'exige la loi, mais au bureau de l'ONG Justice à Esbel. Après une longue joute verbale contradictoire entre les représentants de deux parties en présence à savoir la ferme Espoir et Timothée Mbuya, le président de Seyan a rejoint les préoccupations des avocats de Timothée Mbuya et renvoyé les deux parties. Pendant cette joute verbale, le principal incriminé, tout des blancs vêtus et les regards cachés derrière les lunettes, suivaient attentivement les différentes prises de parole. À la sortie de l'audience, il a déclaré que
les intimidations ou les harcèlements judiciaires ne vont pas nous décourager. Ce que nous avons dit est vrai, c'est vérifiable et notre lutte, c'est que l'environnement soit protégé. Et nous croyons que quelle que soit l'issue de la procédure, le juge finira un jour par s'imprégner du contenu de notre rapport et remettre aussi l'État congolais dans ses droits.
Les avocats de la ferme Espoir se sont dit non découragés. Ils promettent des régulariser la saisine pour que ce procès se tienne afin que leur cliente, la ferme Espoir, soit rétablie dans ses droits. Et devant le parvis du palais de justice, quelques activistes de droits de l'homme arboraient des pancartes portant des messages de soutien à leur collègue Timothée Mbuya. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Incendie du Parlement sud-africain. Le principal suspect accusé de terrorisme, Zandile Christmas Mafé, 49 ans, avait été arrêté dès dimanche alors qu'il s'est trouvé encore dans l'enceinte du Parlement. Il avait été inculpé 3 jours plus tard lors d'une brève comparution devant un tribunal du Cap. L'inculpé est coupable de délits de contravention aux provisions de protection de la démocratie contre le terrorisme et activités associées, indique l'acte d'accusation consulté ce mardi par l'AFP. Le Kazakhstan vient de vivre les événements les plus importants depuis son indépendance en 1991, selon le président Kassym Jomart. Évoquant les émeutes ayant fait au moins 164 morts, il parle de tentatives de coup d'État. Ces émeutes se sont greffées aux manifestations pacifiques qui ont commencé le 2 janvier pour protester contre le doublement du prix d'un carburant.
L'invité.
Il s'agit de Honoré Kapuku Mushila de l'ONG des droits de l'homme, la voix des sans-voix VSV. Il conduit une délégation de la VSV à Mbandaka. C'est pour une sensibilisation et mobilisation des acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Honoré Kapuku s'entretient à ce sujet avec Paul-Richard Malingela.
Monsieur Honoré Kapuku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Cette fois-ci, vous parlez des droits économiques et socio-culturels. Quels sont les principaux droits dont jouissent nos populations?
Les droits économiques, socio-culturels sont, comme on l'a dit, avec tous les droits fondamentaux inhérents à l'homme. On peut citer quand même les droits à l'eau potable. Si on n'a pas de l'eau potable pour toute la population, c'est un problème de santé qui va se poser. Nous avons aussi le droit à l'électricité, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation. Ce n'est pas n'importe quelle alimentation, une bonne alimentation. Le droit au travail, le droit à la culture. Parfois, nous-mêmes, nous minimisons notre culture. Notre langue, parfois, est souvent oubliée pendant des manifestations culturelles qu'on organise. Et pourtant, les droits économiques, sociaux et culturels nous rappellent l'utilisation même de la langue autochtone dans notre culture est très, très importante.
Pendant les rencontres.
Ce n'est pas exclu. Si vous allez dans d'autres cieux, on vous parle seulement dans leur dialecte, dans leur langue. Vous allez fournir un effort afin de connaître aussi comment parler cette langue-là. Oui. Donc, il y a plusieurs droits. Nous avons le droit à la propriété, donc le droit au logement. C'est un problème sérieux qui se pose. Si vous regardez la province de l'Équateur, il y a des gens qui sont dans des taudis.
En quoi cette sensibilisation va apporter un changement dans ces domaines-là?
Bon, une fois la population qui est ciblée et les autorités qui sont impliquées prennent conscience et vont aussi vulgariser les mêmes droits auprès de la population, chacun de nous saura comment les revendiquer. Et s'il y a revendication, c'est une façon de demander à l'État qui a l'obligation de les réaliser, les protéger et les respecter, de faire en sorte qu'il y ait jouissance de tous ces droits. Et si l'État fournit un effort, ne fût-ce que de réaliser au minimum, donc à ce moment-là, on peut espérer avoir un changement. C'est le développement même du pays. Vous regardez très bien avec les infrastructures routières, les routes de dessert agricole dans la province de l'Équateur posent des problèmes sérieux. Comme conséquence, la misère en Bandaka. Les gens souffrent. Ils nous disent qu'il manque même le poisson, mais nous sommes entourés des eaux. Jusqu'à quand la population va commencer à crier? Tout ça, c'est manque de connaissances en la matière. Une fois toute la population mobilisée, sensibilisée, pourra revendiquer, et je pense que l'État ne pourra pas garder sourde oreille pour satisfaire à leurs besoins.
Enfin, en cas de violation des droits économiques, socioculturels, que doit faire la victime?
D'une manière générale, ici, ce sont des cas qui constituent des dossiers d'une communauté quelconque, d'un peuple, de la population, mais des cas isolés dans le cadre de la liberté syndicale, le droit au travail. Je pense que la personne qui se sent vraiment touchée, il y a une procédure à suivre.
Laquelle?
Il y a la procédure d'abord administrative. S'il s'agit d'un problème de travail, il y a quand même au niveau de l'administration publique toute une procédure à suivre. S'il ne trouve pas gain de cause, c'est à ce moment-là qu'il peut contacter aussi les structures de la société civile, les droits humains que nous sommes, pour l'accompagner dans sa démarche. Je pense que tout pourra où aboutir. Il y a la justice. Il est dit dans les fondamentaux des droits de l'homme que tout être humain bénéficie les mêmes droits que tout autre. Il n'y a pas de discrimination. Le principe d'égalité existe et de justice. Il doit trouver la juridiction compétente. Et à cela, s'il n'est pas encore satisfait, il y a toujours la possibilité d'interjeter appel. Chaque fois, être assisté d'un avocat, les gens qui maîtrisent le domaine, puisque seul, parfois, on ne peut pas comprendre le méandre, mais on peut se faire embourber par n'importe qui.
Honoré Kapoko de la VSV, Radio Kapivudi, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Paul Richard Malengela. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivuita. Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.